François Hellebrun, bonsoir.
Bonsoir Pierre.
François Hellebrun, vous êtes le vice-président du Mémorial de la Shoah et comme chaque année, une Askara, une commémoration dédiée aux victimes de la Shoah mortes sans sépulture, s'est tenue dimanche dernier, veille de Kippour, sur le parvis du Mémorial de la Shoah à Paris. C'est une tradition que des grands noms s'expriment à cette occasion depuis de nombreuses années, hein.
Tout à fait. En fait, cette cérémonie a commencé tout de suite après la guerre, après la libération en 1945, qui avait lieu à la Victoire. À partir du moment où le mémorial de la Shoah, je rappelle, qui est le plus vieux mémorial au monde, créé bien avant Yad Vashem, puisqu'il a été inauguré en octobre 1956, sur l'endroit où il se trouve actuellement, et qui s'appelait à l'époque le tombeau du martyr juif inconnu, il y a eu des cérémonies de la Askara chaque année. Et j'ai retrouvé un message du président du comité exécutif du comité du tombeau du martyr juif inconnu de 1963, donc il y a juste 60 ans. Voilà ce que Isaac Schneerson, qui avait créé ce tombeau du martyr juif inconnu devenu le mémorial de la Shoah, écrivait. Le souvenir des morts constitue une tradition sacrée pour les juifs. L'observance de cette tradition est d'autant plus impérieuse et émouvante lorsqu'il s'agit des millions de victimes juives innocentes qui ont été sacrifiées à la barbarie hitlérienne. Parmi ces martyrs, le plus grand nombre a été privé de toute sépulture. Pour eux, le mémorial du martyr juif inconnu constitue le seul tombeau qui sanctifie leur mémoire. Comme les années précédentes, le mémorial considère comme un de ses premiers devoirs d'honorer pieusement le souvenir de nos chers disparus en organisant une grande cérémonie commémorative de Askara qui aura lieu le dimanche 22 septembre 1963 à 10h30 du matin. Eh bien, nous sommes 60 ans plus tard et au mémorial de la Shoah, nous continuons cette belle et grande tradition. Et effectivement, au-delà des prières, et cette année, les prières ont été prononcées par le grand rabbin Olivier Kaufmann, il a notamment chanté El Malé Rahamim et évidemment prononcé le Kaddish. Chaque année, des grands témoins sont invités. J'ai retrouvé certains noms. Jean-Paul Elkann, qui, certains s'en rappellent, était le président du consistoire. Claude Lanzmann, évidemment le grand cinéaste. Dominique Schnapper, la très grande historienne qui préside le musée d'art et d'histoire du judaïsme. Pierre Nora, de l'Académie française, très grand historien. Pierre Birnbaum, qui a consacré sa vie à travailler sur l'histoire des juifs d'État en France. Jean-Claude Grimbert, le réalisateur de pièces de théâtre si émouvantes et si bouleversantes. L'année dernière, Serge et Béat Klarsfeld, pour la première fois, et en duo, Serge s'est exprimé, Béat à son tour, et puis à nouveau Serge. Voilà pour quelques grands noms qui se sont exprimés dans cette très belle cérémonie de Askara.
Et cette année, c'est Bernard-Henri Lévy qui a prononcé un discours. C'est la troisième fois qu'il s'exprime au mémorial de la Shoah. Bernard-Henri Lévy qui a rappelé en préambule de son discours que nous sommes confrontés aujourd'hui aux mêmes impératifs, aux mêmes défis, aux mêmes devoirs d'intelligence et de mémoire.
Oui, en fait c'est un peu original parce que c'est la seule personne que nous avons invitée trois fois. Et comme il l'a rappelé en introduction de son discours, il était venu une première fois, tout jeune homme, c'était assez exceptionnel. En 1979, il avait juste 28 ans, il commençait à se faire connaître depuis quelques années, et il avait été invité à la demande de Simone Veil. Donc c'était le regard d'un jeune homme, d'un jeune intellectuel philosophe, sur ce que pouvait représenter la Shoah. Il a été réinvité en 1991 par Éric de Rothschild, le président du mémorial de la Shoah. Et puis, à nouveau, j'ai suggéré cette année, puisque nous débattons chaque année de qui nous allons inviter, j'ai suggéré qu'il soit invité. Alors, on s'est posé la question, mais il est déjà venu. Mais bon, celui qui était venu en 1991, nous sommes en 2023, 32 ans plus tard, est-ce qu'il va dire les mêmes choses? Et c'est intéressant d'avoir son regard. Eh bien, nous n'avons pas été déçus. D'abord, sur le parvis, il y avait énormément de monde. Il était totalement plein. Il y avait plus de 300 personnes, très émues, quelques rescapés, les derniers qui étaient là, et beaucoup de nos fidèles à ces commémorations. Et surtout, le texte qu'a prononcé Bernard-Henri Lévy, que j'encourage vos auditrices et auditeurs à lire et à écouter, vous pouvez vous rendre sur le site du Mémorial de la Shoah, memorialdelashoah.org. Vous aurez à la fois le texte écrit que vous pourrez lire, et si vous voulez écouter l'enregistrement vidéo, ça a été filmé, vous pourrez le voir avec un lien sur YouTube. Il s'est exprimé et il a rappelé certaines choses très fortes. Et j'étais à titre personnel très frappé, comme beaucoup d'ailleurs, de certaines paroles fortes, à la fois sur ce que représente la Shoah, mais aussi ce que doit être le peuple juif et le judaïsme aujourd'hui, 75 ans après la Shoah. Il a par exemple commencé par dire ce que la Shoah eut par rapport à tous les autres génocides d'irréductiblement singulier. pas le nombre de ses morts, pas la froide technicité, l'industrialisation exponentielle de la machine à tuer, telle que Martin Heidegger, en mage noir qu'il était, l'a caractérisée. Même pas sa cruauté que de l'Arménie au Rwanda, d'autres génocides avaient eu et auront en partage. Non, ce que ce crime ici eut d'absolument singulier, c'est qu'il fut le seul à se vouloir sans recours. Pas de frontières pour les tueurs, pas de ville refuge pour les victimes. L'Europe et même en théorie la planète, tel un gigantesque piège pour le gibier juif pourchassé par la battue mondiale. Il continue plus loin, et il est le seul à s'être voulu à ce point sans nombre et sans tombe. Sa spécificité la plus profondément diabolique fut qu'en même temps qu'on rayait les victimes du livre des vivants, on le rayait aussi du livre des morts. Et ainsi, il fit le lien avec cette cérémonie en disant « De là, chers amis, l'importance du geste que nous faisons ici cette année, comme toutes les années en nous rassemblant sur le parvis de ce mémorial de la Shoah. Nous venons bien sûr nous souvenir de ceux qui ont été gazés, brûlés, mitraillés, enterrés vivants ou morts. Nous venons réentendre leur voix et leur silence, leurs larmes et leurs hurlements, les étouffements et les compressions des corps dans les trains, puis les baraques et enfin les chambres à gaz. Mais nous venons aussi faire un geste de réparation, et j'entends le mot, là encore, au sens le plus clair, le plus précis, le plus concret qu'il a dans la tradition juive, du tikkun olam. » Et donc, il rappelle cette volonté de réparation. Et ce qui est intéressant, c'est qu'il a fait un retour en arrière sur justement ce qu'il avait prononcé en 79. Et une des inquiétudes qu'il avait à juste titre, comme beaucoup d'entre nous, je pense que vous en rappelez Pierre comme moi, en 79, c'était la percée et la montée du négationnisme. Et voilà ce qu'il dit à propos de ça. « Je m'aperçois que je suis paradoxalement plus optimiste aujourd'hui que je ne l'étais naguère. » D'abord, chers amis, je repense à ces négationnistes qui nous faisaient si peur il y a 45 ans. Eh bien, cela ne s'est pas produit. Le négationnisme, il est loin d'être défait et fait encore cause commune trop souvent avec cette haine d'Israël qui est le nouveau carburant du crime antisémite, a été tenu en respect. La honte monstrueuse que la Shoah doit inspirer au monde ne s'est, en Europe du moins, pas éteinte. Il n'y a, grâce au ciel, même pour les Juifs, pas que des batailles perdues. Et puis, La deuxième espérance, c'est qu'il craignait, il y a 45 ans, que ce flambeau porté par les survivants, les rescapés, les résistants, qui étaient ceux du comité du tombeau du martyr juif inconnu de l'époque, n'ait pas de successeur. Et là, ce qu'il a, il dit sa fierté et sa joie de voir que la jeunesse juive est là, et renouer avec cette vitalité juive qui les rendait fous parce qu'elle nous faisait bâtir ici des villes, fonder là des républiques, fomenter même des révolutions. Et cette splendeur juive retrouvée, cette force juive assumée et joyeuse, cette idée que le peuple juif est un trésor pour l'humanité et qu'il entend bien ce trésor, ce ségoula, se dépenser sans compter pour que l'humanité soit rédimée, n'est-ce pas la grande nouveauté par rapport au judaïsme de 79? Et pour conclure, il rend hommage à la jeunesse juive, et il a bien raison. J'observe la jeunesse juive qui, de décennie en décennie, depuis mon premier discours ici, a développé un sixième sens face au mal, et sans jamais oublier que c'est sur ses pères et grands-pères que s'est penchée la face ultime du diable, s'est portée de la Bosnie au Rwanda et aujourd'hui à l'Ukraine, sur tous les lieux du monde où le mufle réapparaît. Et enfin, pour conclure, le sens du petit nombre, l'héroïsme du petit nombre, cette grâce et cette intelligence du petit nombre dont les Juifs ont promis au monde qu'elle ne serait jamais submergée et qui sont le sel de sa terre, tel est le génie du judaïsme, telle est sa profonde vocation. » Donc c'est un très très beau discours, très riche, j'en ai cité que quelques extraits, que je vous encourage à lire et écouter sur le site du Mémorial de la Shoah.
On va changer de sujet, bien que les thèmes de la mémoire et de l'intelligence dont parlait Bernard-Henri Lévy dans son discours restent les mêmes. C'est le tweet de Daniel Obono. C'était le 23 septembre dernier, qui vous fait réagir ce soir, François Heilbronn. Voilà ce que la députée LFI disait. « Les gens ulcérés par les propos du pape sur les migrants, quand ils vont réaliser que Jésus, juif, palestinien, avec deux papas, une maman, migrant, SDF, chômeur, vivant en bande avec d'autres jeunes et des ex-prostituées, fustigeant le capitalisme, a été tué par un État colonial. » J'ai envie de vous dire, il manque juste les extraterrestres.
Oui, c'est intéressant. Puis en plus, il y a beaucoup d'erreurs historiques. Je reviendrai sur la principale. Mais d'abord, il n'était pas SDF, il n'était pas chômeur, il était charpentier.
Puis il n'y avait pas de capitalisme.
Voilà, il n'y avait pas de capitalisme. Après, il était rabbin, c'est un beau métier. Il était rabbin itinérant. Et il avait effectivement une maman, deux papas, bah oui. oui, peut-être, mais ça, c'est un grand débat. Et puis, évidemment, elle a là où elle a raison, c'est qu'il y avait le colonialisme romain. Effectivement, la Judée était une colonie romaine. Mais là où elle se trompe totalement, et c'est ça qui me fait réagir, comme vous, c'est le juif palestinien. Eh bien non, la Palestine n'existait pas, Madame Obono. Retournez sur les bancs de l'école, relisez vos livres d'histoire. La Palestine est une création beaucoup plus tardive. Il y a eu d'abord un royaume d'Israël, puis un royaume de Judée, et ce royaume de Judée a perduré jusqu'en l'an 70 après Jésus-Christ. Je dis bien 70 après Jésus-Christ. Là, les Juifs se sont révoltés contre l'occupation romaine. Ça a été la première guerre des Juifs contre les Romains, qui s'est terminée dans le sang, puisque le général Titus a détruit Jérusalem, et surtout détruit le temple de Jérusalem. Et Flavius Josèphe rapporte que dans la guerre des Juifs contre les Romains, que plus de 1 million de Juifs ont été massacrés dans le royaume de Judée. Je dis bien le royaume de Judée, pas de Palestine, Madame Obono. Eh bien, c'est arrivé bien plus tard, la Palestine, parce qu'il y a une deuxième guerre des Juifs. Bar Korba, ce héros célèbre, s'est révolté contre la tentative de l'empereur Adrien, cet horrible empereur dont personne n'ose citer le nom parmi les Juifs. Et généralement, chez les Juifs, on ne donne pas le prénom d'Adrien avec un H à son enfant à cause de ça. Adrien a déclaré la guerre à Bar Korba et aux autres juifs qui se révoltaient. Il avait comme projet de créer sur les ruines de l'ancien temple de Jérusalem, dans une nouvelle cité appelée Aella Capitola, il avait comme ambition de créer un temple consacré à Jupiter. C'est ce qui a provoqué principalement cette guerre, deuxième guerre des Juifs, qui a duré 3 ans, de 132 à 135 après Jésus-Christ. Je dis bien 132 à 135 après Jésus-Christ. Les légions romaines ont été défaites les unes après les autres. Adrien est venu lui-même conduire la guerre avec des renforts venus de légions ramenées de la Bretagne, de la lointaine Bretagne, celle où il y avait Astérix. Et cette guerre a duré 3 ans. Au bout de 3 ans, Jérusalem a été totalement rasée. Et là, Adrien a décidé que Jérusalem ne s'appellerait plus Jérusalem et que ça deviendrait Aella Capitola. Et que la Judée, le nom de Judée, ce nom criminel pour lui, disparaîtrait et deviendrait la province de Palestine. Donc la province de Palestine, c'est 135 après Jésus-Christ. Écoutez-moi bien, Madame Obono, retournez à l'école, prenez des notes. Jésus était un juif né en Galilée, à Nazareth, et non pas à Bethléem, comme l'ont écrit certains. Il est né en moins 4 avant Jésus-Christ, puisqu'on sait que les Romains se sont trompés sur sa date de naissance, comme l'a expliqué le grand Ernest Renan, professeur au Collège de France en 1860. Donc, retourner sur les bancs de l'école, et peut-être au Collège de France, avant d'aller polluer l'Assemblée nationale et l'esprit de vos compatriotes avec des erreurs et des anachronismes historiques insultants.
François Heilbronn, vice-président du Mémorial de la Shoah, merci d'avoir été avec nous en direct sur Radio Shalom. Bonsoir.
Bonsoir Pierre.